Pourquoi est-ce que Jésus, après leur avoir dit « paix à vous », montre ses mains et son côté? Pourquoi est-ce que Jésus, après leur avoir dit « paix à vous », leur montre ses mains et son côté? Alors on pourrait dire, première hypothèse, pour qu'on sache que c'est bien lui. C'est pas, on nous a pas sorti un sosie, c'est pas quelqu'un qui lui ressemblerait, qui aurait pris sa place et qui essaierait de se faire passer pour lui. Non, c'est bien le crucifié qui est vivant. Là, une première hypothèse de pourquoi il les montre. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond et qui explique pourquoi Jésus montre les traces de la passion et pourquoi il le fait juste après avoir dit « paix à vous ». C'est pour que l'on sache que le pardon qu'il accorde, « paix à vous », est vrai. On peut se souvenir, les disciples, les apôtres, au moment de l'arrestation de Jésus, se sont tous enfuis. Eux qui avaient dit, comme Pierre, « mais même si tous t'abandonnent, moi je t'abandonnerai pas », ils se sont dispersés, Pierre l'a renié par 3 fois. Il y aurait des motifs à ne pas être content, et que la première parole de Jésus soit une parole de reproche, une parole pour les mettre en cause. Et la première parole de Jésus, c'est « paix à vous ». On peut se poser la question, il dit « paix à vous » parce qu'il a oublié l'histoire. Il est revenu d'entre les morts et il est frappé d'amnésie. Alors bon, il y aurait une crainte de se dire, mais peut-être qu'à un moment il va se rappeler. Dans l'histoire d'Israël, on a une crainte un peu semblable qui s'était produite avec le patriarche Joseph, le fils de Jacob, vous savez, celui qui avait été vendu par ses frères en esclavage et qui était devenu le grand vizir d'Égypte et qui avait pu les sauver de la famine. Il leur avait pardonné, mais quand Jacob, leur père, meurt, ils sont tout inquiets, ils se demandent, mais en fait, est-ce que c'était pas par respect de notre père qu'il nous a épargnés, et maintenant notre père est mort, il va nous faire payer ce qu'on lui a fait? Et Joseph réaffirmera la réalité de son pardon. Jésus n'a pas oublié. Les traces de la passion le manifestent. L'histoire a bien eu lieu. Et c'est en toute connaissance de l'histoire qu'il vient leur apporter la paix. La paix soit avec vous. Oui, c'est le contraire de ce qu'on a dans les films d'horreur. Hein. Dans les films d'horreur, il revient et il n'est pas content. Et il met à mort tous ceux qui lui ont fait du mal les uns après les autres. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Il y a une miséricorde qui est accordée par Jésus. Mais du coup, ça nous aide peut-être à nous poser une question. Quand on a été offensé, quand on a été offensé par quelqu'un qui nous a fait du mal, qu'est-ce qu'il faut pour que quand on dit « je te pardonne », ce soit vrai? Alors on va imaginer, pour que ce soit plus simple, qu'on est face à quelqu'un qui nous demande vraiment pardon. Il n'est pas en train de ruser, il nous demande vraiment pardon. Qu'est-ce qu'il faut de notre côté, qu'on dépasse, qu'on espère, pour que quand on dit « je te pardonne », ce soit vrai? Je voudrais approfondir ce point avec vous aujourd'hui. Il y a en fait 4 conditions. 4 conditions pour qu'un pardon puisse être vrai. La première condition, c'est qu'il va falloir traiter la colère. Quand tu m'as fait du mal, je suis en colère. Tu m'as fait du mal, je suis en colère. J'ai peut-être même une rage. Ça se manifeste parfois de façon toute simple. Tu m'as bousculé, je te bouscule. Bon alors, tu m'as crié dessus, j'ai envie de te crier dessus. Parfois, il y a des choses plus graves et j'ai en moi une vraie rage. Et je ne peux pas dire qu'elle n'est pas là. Je ne peux pas dire qu'elle n'est pas là. Vous voyez, il y a une colère qui est en nous quand on nous a fait du mal. La colère, au départ, c'est pas quelque chose de mauvais. La colère, c'est une énergie qui nous permet de ne pas être complice de l'injustice. Vous avez un camarade qui se fait agresser par 3 autres. La colère, ça va nous permettre de dire, non, c'est pas juste, ils sont à 3 contre lui, c'est pas possible ça. Et de ne pas passer comme ça en disant, bon, ça m'intéresse pas. La colère est là pour me donner une énergie pour agir contre l'injustice. Et la colère, souvent, elle se manifeste de 2 façons, ça dépend un peu de notre tempérament. Il y a des colères, on les appelle les colères froides, colères blanches. C'est à l'intérieur, ça sort pas. De l'extérieur, ça change rien, mais à l'intérieur de nous, on peut avoir un lac d'acide qui nous ronge. Puis vous avez d'autres tempéraments, c'est des colères rouges, des colères chaudes. Alors c'est un volcan en éruption. Mais alors lui, quand il se met en colère, c'est des torrents de lave qui partent dans tous les sens, ça peut tout détruire. Et on voit que ni l'un ni l'autre, en fait, n'est vraiment une solution. Est-ce qu'il faut que j'explose comme un volcan et je détruis tout autour de moi? Ou est-ce que je garde tout en moi, mais c'est moi qui suis détruit alors? Et là, le livre des psaumes dans la Bible va être très intéressant. Il y a plusieurs exemples, en fait, où le psalmiste, il est fou de rage, fou de peine à cause du mal qu'on lui a fait. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Eh bien, il fait monter sa colère vers le Seigneur. Alors, il y a un psaume qui est assez connu, en fait, on ne sait pas que c'est un psaume, parce que c'est Boney M., on a fait une chanson, « By the Rivers of Babylon ». Vous avez peut-être déjà entendu cette chanson-là, « By the Rivers of Babylon », c'est un psaume. Alors, dans la chanson, on ne nous donne pas la dernière strophe. Pourquoi? Parce que la dernière strophe, elle dit ceci. « Heureux qui te vaudra, Babylone, les maux, les malheurs que tu nous valus, heureux qui fracassera tes petits contre le roc. » Mais c'est quoi ce truc-là? C'est quand les Babyloniens ont pris Jérusalem, les Babyloniens étaient réputés au Moyen-Orient pour être extrêmement cruels. Eh bien, les habitants de Jérusalem, ils les ont vus prendre les nouveau-nés et les fracasser contre les murailles. Et ça, ils ne peuvent pas dire « il ne s'est rien passé ». Ils ne peuvent pas dire « oh, c'est pas grave ». Ça les a traumatisés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les petits des Babyloniens et on a bien cette image dans la tête. Mais est-ce qu'il faut qu'on se montre des bourreaux comme eux-mêmes ont été les bourreaux? Alors, ils font monter leur cri vers le Seigneur. Ils disent « Seigneur, voilà ma colère telle qu'elle est, voilà l'injustice qui nous a été faite ». Et ils la décrivent devant le Seigneur. Ils vont confier leur colère devant le Seigneur. Mais ils ne le font pas simplement en une fois, en disant « Seigneur, je te confie ma colère ». Voilà, ça en deux secondes, c'est dit. Non, mais notre cœur, il n'a pas commencé à parler. Ils décrivent toute la rage qui est en eux. Et voilà, s'ils pouvaient être abandonnés, que leur terre soit ravagée. C'est des choses abominables peut-être, mais c'est dans leur cœur. Et s'ils la laissent comme ça, ça va juste les brûler. Alors il la donne au Seigneur en disant « Seigneur, tu vois ma peine, tu vois l'injustice qui m'a été faite, je te demande, toi, de faire justice, parce que toi, tu peux trouver une solution que moi, je vois pas. » Et ils prennent le temps de confier leur peine et leur rage. Et après, quand on a confié sa colère au Seigneur, on lui demande un échange de cœur. « Seigneur, tu es le seul, du haut de la croix, à pouvoir dire « Père, pardonne-leur ». Si on pouvait le faire, ce n'était pas la peine que tu viennes. Hein. Non, ça va, on sait faire. Non, on ne savait pas faire. Et on ne sait toujours pas faire. Alors Seigneur, moi je te donne mon cœur et sa rage, mais toi tu me donnes ton cœur et sa paix. Et que ton cœur vienne aujourd'hui combler ce qui manque à mon cœur pour que mes paroles soient vraies. Et je commencerai à dire aujourd'hui, Père, pardonne-leur, parce que je sais que ton cœur, Seigneur Jésus, vient combler ce qui manque au mien. Et je ferai cette prière jusqu'à ce que mon cœur soit devenu semblable au tien. 10 fois, eh bien 10 fois. 100 fois, eh bien 100 fois. 10 000 fois, eh bien 10 000 fois. Jusqu'à ce que mon cœur soit semblable au tien. Je te donne mon cœur et sa rage, et toi, donne-moi ton cœur et sa paix. Première condition du vrai pardon, traiter la colère en la confiant au Seigneur avec toute sa rage, telle qu'elle est, la reconnaître et la lui donner. Deuxième condition, c'est accepter le temps. Le temps de quoi? Le temps d'une part que la blessure s'apaise. Quand on vous a fait du mal profondément, c'est comme une grande blessure. C'est pas la même chose si on vous a juste écorché le dos de la main ou si vous êtes fait une fracture ouverte. Dans l'un des cas, en 2 jours, c'est fini. L'autre, il faudra peut-être plusieurs mois. Et le fait qu'il faille du temps pour qu'une blessure profonde s'apaise, c'est pas un refus de pardonner. Et donc je peux parfois dire, je te pardonne, mais il faudra du temps pour que la douleur s'apaise. C'est pas un refus de pardonner, c'est une réalité. Le temps pour que la blessure s'apaise. Et un temps aussi pour rebâtir la confiance. Vous savez, la confiance est quelque chose qui se construit. Ça se construit de jour en jour, on s'est montré digne de confiance. Et quand la confiance a été trahie, vous imaginez, c'est comme un mur de briques qu'on a mis à terre, toutes les briques sont parties. Le mur, il est par terre, là, c'est plus un mur, il faut remettre les pierres, les briques, les unes sur les autres. Et ça prend du temps. Je te pardonne, Mais il faudra du temps, il faudra un effort pour rebâtir la confiance. Ce n'est pas un refus de pardonner, c'est une réalité. Et donc, j'aurais à te demander, qu'est-ce qui te donne confiance? Qu'est-ce qui te met en confiance? Explique-moi, pour que je puisse faire les gestes, remettre les briques de la confiance les unes sur les autres. Confier la colère, traiter la colère, accepter le temps pour que la blessure s'apaise, pour reconstruire la confiance. La troisième condition, alors c'est un acte de foi par rapport au regret de l'autre. Parce que vous savez, si pour voir si on a de la fièvre, on a un petit outil, on met un thermomètre et on a la température, pour savoir le regret de l'autre, on n'a pas un petit appareil qui nous permet de dire « bip, 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 oh, un bon regret, ça va bien » ou « bip, bip, ah non, il faut mieux faire ». Ça, on l'a pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la confiance, mais avec un élément qui pourtant peut être objectif. C'est que quand quelqu'un regrette et vient vous demander pardon, il s'engage à ne pas recommencer. Et il y a un élément objectif autour de ça, c'est est-ce que tu prends les moyens pour ne pas le refaire? Est-ce que tu prends les moyens objectifs pour ne pas le refaire? Vous savez, l'alcoolique qui vous dit j'arrête de boire mais qui garde sa bouteille de whisky dans le tiroir, tu te donnes pas les moyens d'arrêter. C'est à portée. Peut-être qu'il faut changer des horaires, peut-être qu'il faut changer des fréquentations. Il y a un élément là. Est-ce que tu te donnes les moyens? Tu me demandes pardon, mais tu ne te donnes pas, tu ne prends pas les moyens pour que ça ne se reproduise pas. Donc, un élément à la fois de confiance. Je crois que tu me demandes pardon sincèrement, mais je peux observer, est-ce que vraiment tu prends les moyens que ça ne se reproduise pas? Et puis la dernière condition, c'est une espérance. C'est une espérance que Dieu saura mettre une fécondité là où il n'y en avait pas. Quand tu m'as fait du mal, c'était quelque chose, c'était un vide, tu avais détruit quelque chose. Tu avais laissé une béance, une blessure. Une blessure en elle-même, elle n'est pas féconde. Elle peut s'infecter, oui, mais elle n'est pas féconde. Mais j'ai confiance que toi, Seigneur, tu peux faire jaillir une fécondité où il n'y en avait pas. Pourquoi j'ai cette confiance? Parce que justement, tu nous montres tes plaies. Les plaies qui étaient mortelles sont devenues des plaies glorieuses. Les plaies qui faisaient mourir apportent désormais la vie. Ça, c'est un acte de Dieu. C'est le seul qui est capable de faire ça. De faire jaillir la vie là où on avait ravagé quelque chose. Et il le fait par sa présence. Je voudrais citer un exemple que j'avais vécu en accompagnant une équipe de couples. Dans cette équipe de couples, il y en avait un couple qui avait déjà 3 enfants, et un autre, là, ils venaient d'avoir leur premier enfant, une petite fille. Et on les revoit 1 mois après, ils sont livides, verts, les tendus, ils disent « ça va pas du tout, là, on s'est jamais disputé comme ça, on n'y arrive pas ». Et puis le couple qui avait déjà 3 enfants leur a posé quelques questions, elle leur a dit « mais... là, avec la petite, elle dort pas hein, la nuit. Ah non, elle se réveille toutes les 2 heures. Et ton boulot, toi, c'est toujours la même pression. Ah oui, ça n'a pas changé. Vous arrivez encore à discuter un peu? Non, c'est compliqué, il faut s'occuper de la petite. » Et ils leur ont fait remarquer, mais en fait, c'est pas étonnant que vous soyez dans cet état. Tous vos repères ont sauté. Vous êtes épuisés. Alors, bonne nouvelle, généralement, après 3 mois, les enfants commencent à faire des nuits un peu plus normales. Pas pour toujours que vous ne dormez pas. Mais n'hésitez pas aussi à demander de l'aide pour la garder un instant, comme ça vous avez 2 heures pour dormir, pour reprendre un peu des forces. Ils leur ont permis de reprendre pied, de reprendre confiance. Et comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Parce que quelques années auparavant, c'était eux-mêmes qui avaient traversé cette épreuve. C'est eux-mêmes qui s'étaient insultés l'un l'autre, qui ne se supportaient pas. Et voilà que ce jour-là, cette expérience qui dans leur passé était une tâche, ce jour-là, c'est devenu une force pour en aider d'autres. Ce jour-là, ils ont donné la vie. Ce jour-là, cet événement de leur existence qui était une tâche est devenu un événement fécond. C'est pour ça qu'on pardonne, parce qu'on a confiance que le Seigneur saura tirer de cet épisode l'occasion de faire du bien, l'occasion d'apporter la vie. Alors voilà, en ce dimanche de la miséricorde, le Seigneur qui nous ouvre son cœur. Qui nous ouvre son cœur, lui qui nous fait miséricorde, pour que nous puissions apprendre à notre tour, avec sa grâce, à faire miséricorde. En sachant traiter la colère, en acceptant le temps pour que la blessure s'apaise et pour que la confiance se rebâtisse. en ayant cet acte de foi dans le regret de l'autre, tout en regardant est-ce que tu te donnes les moyens. Et puis cette espérance que Dieu saura faire de nos plaies mortelles de l'histoire des plaies glorieuses, qu'il saura donner une fécondité à ce qui n'était que blessure. Seigneur Jésus, en ce dimanche de la miséricorde, fais-nous entrer dans ce mystère du pardon. Qu'avec ta grâce, les plaies mortelles de notre histoire deviennent des plaies glorieuses. Amen.